Livre 3, Les Sensuels. La maison de Fiodor Pavlovitch Karamazov était située à l'extrémité de la ville, mais pas tout à fait dans la banlieue. Une maison d'un étage avec un pavillon peint en gris, le toit en fonte rougie, c'était spacieux et confortable. Il y avait un grand nombre de cabinets noirs et d'escaliers dérobés. Les rats y pullulaient en liberté. Fiodor Pavlovitch ne les détestait pas. On s'ennuie moins le soir quand on est seul. Et il envoyait tous les soirs ses domestiques dans le pavillon et s'enfermait seul pour la nuit. Le pavillon, situé dans la cour, était grand et bien bâti. Fiodor Pavlovitch y avait installé une cuisine, quoiqu'il en eût une autre dans la maison. Il n'aimait pas l'odeur de la cuisine. La maison aurait pu loger 5 fois plus de monde qu'elle n'en contenait. Fiodor Pavlovitch y habitait avec Ivan Fiodorovitch. Le pavillon enfermait les chambres de 3 domestiques, le vieux Grigori, sa femme Martha et le valet Smerdiakov, encore un tout jeune homme. Nous connaissons déjà Grigori, un homme têtu, honnête, incorruptible, qui allait droit à son but, quel qu'il fût, dès qu'il lui apparaissait comme un devoir. Sa femme, Martha Inialievna, avait passé sa vie à se soumettre aux volontés de son mari. Lors, toutefois, de l'affranchissement des serfs, elle avait longtemps tourmenté pour qu'il quittât Fiodor Pavlovitch et vint avec elle à Moscou, fonder un établissement quelconque avec leurs économies. Mais Grigori décida en son fort intérieur que sa baba divaguait. Car toute baba est naturellement malhonnête, et qu'il ne devait pas quitter son maître malgré tous ses défauts, et que son devoir était là. « Mais comprends-tu ce que c'est que le devoir ?» demanda-t-il à sa femme. « Oui, Grigori Vassilievitch, mais quel devoir peut nous obliger à rester ici ? Voilà ce que je ne comprends pas, » répondit Martha d'un ton ferme. « Bon, que tu comprennes ou non, c'est ainsi, tais-toi. » Ils ne partirent pas, et Fiodor Pavlovitch leur alloua des gages mensuels assez médiocres, mais régulièrement payés. D'ailleurs, Grigori se savait une certaine influence sur son barine. Souvent, il l'avait défendu matériellement dans certaines rencontres. Fiodor Pavlovitch s'en souvenait et appréciait fort ce genre de service. Il avait parfois des transes intimes, des terreurs qui, disait-il lui-même, le prenait à la gorge, et il lui était doux de sentir auprès de lui un homme dévoué et de mœurs rigoureusement pures, un compagnon et un défenseur, tout inférieur que Grigori lui fût intellectuellement. Enfin, un homme qui, sans jamais lui rien reprocher, fut en tout temps disposé à lui venir en aide. Contre qui, il ne savait, contre une puissance inconnue et redoutable. Il lui arrivait d'aller réveiller Grigori dans la nuit et de le prier de venir passer avec lui quelques instants, durant lesquels il lui parlait de choses insignifiantes, mais il avait besoin de le sentir là. Puis il le laissait partir et s'endormait du sommeil du juste. Grigori était un mystique. Un événement extraordinaire avait laissé dans son âme, selon ses propres expressions, une empreinte indélébile. Une nuit, Martha Ignatievna avait été réveillée par des plaintes d'enfants nouveau-nés. Très effrayée, elle appelle son mari. Grigori écoute. Ce sont plutôt des gémissements de femmes, dit-il. Il se lève, s'habille. C'était par une chaude nuit de mai. Il descend sur le perron et remarque que les gémissements viennent du jardin. Le jardin était fermé du côté de la cour et défendu par une forte barrière. Grigori rentre dans la maison, allume une lanterne, prend la clé de la barrière et, sans s'occuper de la terreur de Martha, descend dans le jardin. Là, il constate que les gémissements viennent de la salle de bain, située dans le jardin à peu de distance de la porte, et que ce sont en effet des gémissements de femmes. En ouvrant la porte de la salle des bains, il reste cloué de stupeur devant le spectacle qui s'offre à lui. Par terre était étendue Lizaveta Smirdiashnaïa, une idiote connue de toute la ville. Un nouveau-né gisait auprès d'elle, elle agonisait. Aucun mot articulé ne sortait de ses lèvres, elle était idiote et muette. Une circonstance particulière confirma certains soupçons horribles que Grigori avait conçus dès longtemps. Cette Lizaveta Smerdiashnaïa était une fille de petite taille, haute en couleur, avec une physionomie de parfaite idiote. Le regard avait une fixité désagréable, quoique mêlée de résignation. Elle marchait sans jamais s'arrêter, vêtue seulement d'une chemise de chanvre. Son épaisse chevelure noire frisait comme une toison de mouton et lui faisait une sorte d'immense chapeau, tout sale de boue, de feuilles, de paille, de morceaux de bois, car elle dormait toujours par terre, quelque part dans un fossé. Son père était un Mlshanin errant, ruiné, malade, alcoolique, et qui vivait depuis bien des années d'un métier analogue à celui d'homme de peine. Tout enfant, elle n'avait déjà plus de mère. Son père la battait sans pitié quand elle venait chez lui, ce qu'elle risquait rarement, vivant plutôt aux frais de gens charitables qui lui faisaient l'aumône à la pauvre innocente pour plaire à Dieu. On avait essayé plusieurs fois de l'astreindre à porter un costume plus convenable que son unique chemise. Au commencement de chaque hiver, on lui donnait une touloupe et des bottes. Elle se laissait vêtir sans mot dire, puis, à la porte de la prochaine église, déposait bottes et touloupe et reprenait sa course éternelle en grelottant sous sa chemise. Un gouverneur, depuis peu arrivé dans la ville, fut choqué, dans ses meilleurs sentiments, de voir la pauvre créature si indécemment mise. On lui expliqua que c'était une innocente, mais il répliqua que cette innocente troublait l'ordre et prescrivit qu'on prit des mesures pour lui faire adopter un plus correct genre de vie. Mais il partit et rien ne fut changé dans la vie d'Elisaveta. À la mort de son père, elle excita chez les pieux habitants un redoublement de commisération. Les gamins même la respectaient. Toutes les portes lui étaient ouvertes. Quand on lui donnait quelques monnaies, elle ne manquait pas d'aller le mettre dans quelque trou d'église ou de prison. Au marché, quand on lui offrait un petit pain, elle l'acceptait et se hâtait de le donner à un enfant ou même à un barinia, riche ou pauvre, qui l'acceptait avec joie. Elle ne mangeait que du pain noir et ne buvait que de l'eau. Elle passait de préférence ses nuits sur le parvis des églises ou dans quelque potager. Une nuit de septembre, douce et claire, ou il y a longtemps de cela, pendant la pleine lune, assez tard dans la nuit, une bande de 5 ou 6 barines qui avaient bien soupé revenait du club. La rue qu'ils suivaient était bordée de potagers et aboutissait à un petit pont jeté sur une grande mare nauséabonde qu'on était convenu d'appeler la rivière. Contre une haie, couchée dans les orties, ils aperçurent Lizaveta endormie. Les barides un peu gris s'arrêtèrent et se mirent à rire et à faire des plaisanteries obscènes. L'un d'eux demanda s'il était possible de prendre cet animal pour une femme. Tous se récrièrent, mais Fiodor Pavlovitch, qui faisait partie de la bande, déclara au contraire que non seulement on pouvait très bien prendre Lizaveta pour une femme, mais encore que l'aventure lui semblait fort piquante. À cette époque, Fiodor Pavlovitch portait un crêpe à son chapeau, étant en deuil de sa première femme, et l'on ne pouvait le voir sans dégoût se commettre dans telle débauche, alors que sa situation même lui prescrivait une vie irréprochable. Sa sortie excita l'hilarité générale. On s'éloigna en ricanant. Plus tard, il jura qu'il s'était éloigné avec les autres. Personne ne sut jamais la vérité. Mais 5 mois plus tard, la ville s'indigna de voir Lisaveta enceinte et on chercha qui avait pu outrager la pauvre fille. C'est alors qu'une rumeur terrible commença à circuler, laquelle accusait Fiodor Pavlovitch. D'où venait ce bruit? Des barines qui composaient la bande, un seul restait, vieil et respectable fonctionnaire d'État, chargé de famille et qui ne se serait certes pas mêlé d'une telle affaire. Grigory défendit énergiquement la réputation de son barine et même se querella très fort à ce sujet. Elle seule est coupable, disait-il. Et il désignait comme son complice Carpe, un forçat évadé, surnommé Carpe à l'hélice et qu'on soupçonnait de se cacher dans la ville. D'ailleurs, toutes ces rumeurs ne nuisirent nullement à l'idiote. Une marchande, une assez riche veuve, la recueillit chez elle pour lui éviter toute privation jusqu'à son accouchement. On la surveillait sans relâche. Un soir pourtant, presque au moment de sa délivrance, Lisaveta se sauva de chez sa protectrice et vint dans le jardin de Fiodor Pavlovitch. Mais comment, dans son état, avait-elle pu escalader une si haute barrière? Cela reste une énigme. Les uns disaient qu'on l'avait portée, les autres qu'elle avait pu faire une telle chose qu'aider de force surnaturelle. Grigory courut à toutes jambes chercher sa femme et l'envoya à Lisaveta. Lui-même alla quérir une vieille sage-femme qui habitait à peu de distance. On sauva l'enfant, mais Lisaveta mourut vers l'aube. Grigory prit le nouveau-né, l'emporta dans le pavillon et le mit sur les genoux de sa femme. Des orphelins sont les enfants de Dieu, celui-ci est né du diable et d'une sainte. Élève-le. Voilà comment Martha Ignatievna fut chargée d'une enfant. On le baptisa du nom de Pavel, auquel tout le monde ajouta celui de Fiodorovitch. Fiodor Pavlovitch n'y contredit pas, trouvant même la chose très amusante, tout en continuant de nier cette paternité. On l'approuva d'avoir recueilli l'enfant. Plus tard, il lui donna le nom de Smerdiakov, du nom de sa mère Smerdialchaïa. Il servait Fiodor Pavlovitch comme domestique et vivait dans le pavillon entre le vieux Grigory et la vieille Martha. Il avait les fonctions de cuisinier. Après la sortie de son père, Alyosha resta quelques instants abasourdi. Quitter tout de suite le monastère! Il se rendit dans la cuisine du supérieur pour apprendre ce qu'avait fait Fiodor Pavlovitch, et tout en marchant, il s'efforçait de résoudre un problème qui s'imposait à lui. Il ne pensait pas que l'ordre de son père fût définitif. Il était convaincu que Fiodor Pavlovitch ne voudrait pas lui causer une telle peine. Et qui eût pu vouloir lui nuire? Mais il avait des craintes qu'il ne pouvait se définir à lui-même au sujet de cette jeune fille, de cette Katerina Ivanovna, qui insistait tant pour le voir chez elle. Ce n'était pas ce qu'elle lui dirait qui l'inquiétait, c'était ce qu'il aurait à lui répondre. Et ce n'était pas la femme qu'il craignait. Il avait été élevé par des femmes et les connaissait bien. Il craignait cette femme-là, précisément celle-là, Katerina Ivanovna, et il l'avait crainte dès le premier regard. Or, tout au plus l'avait-il vue deux ou trois fois. Il se la rappelait comme une belle, orgueilleuse et dominatrice jeune fille, et il s'effrayait, en y songeant, de ce qu'il trouvait d'inexplicable dans la peur même qu'elle lui inspirait. Il savait que Katerina n'avait que deux nobles mobiles d'action, qu'elle s'efforçait de sauver Dmitri, coupable envers elle, et qu'elle n'agissait que par générosité. Pourtant, malgré toute l'admiration qu'il lui avait vouée, il ne pouvait se défendre d'un frisson mystérieux chaque fois qu'il s'approchait de la maison où vivait la jeune fille. Il calcula qu'en cet instant, Ivan Fiodorovitch, retenu par son père, n'était pas chez elle. Quant à Dmitri, il ne pouvait pas davantage être chez Katerina. Alyosha pourrait donc lui parler tête à tête, mais avant de la voir, il désirait parler à Dmitri. Mais où le prendre ? Il fit signe de la croix en souriant d'un sourire intraduisible et se dirigea avec fermeté vers la terrible personne. Il longea, pour faire court, les jardins coupés de ruelles. Il remarqua un potager commandé par une petite maison d'un étage avec quatre fenêtres. À la hauteur du potager, il releva la tête et resta stupéfait. De l'autre côté de la haie, dans le potager, se tenait debout sur un petit monticule son frère Dmitri, qui l'appelait en gesticulant sans parler, craignant évidemment d'être entendu. Alyosha courut à lui. « Heureusement, tu m'as vu, j'aurais été obligé de crier !» murmura Dmitri à voix basse. « Saute par-dessus la haie, vivement !»« Oh, comme cela tombe bien, je pensais à toi !» Et Mitya, de sa main d'Hercule, souleva par le cou de Alyosha et l'aida à sauter. « Maintenant, allons !» reprit-il, transporté de joie. « Mais où donc ?» murmura Alyosha, regardant autour de lui dans ce jardinet désert. « Il n'y a personne ici. Pourquoi parlons-nous à voix basse ?»« Pourquoi ? Ah, diable !» s'écria tout à coup Dmitri à pleine voix. « Et en effet, pourquoi parler à voix basse ?»« Mais vois-tu, j'épie. Je suis à l'affût d'un secret. » C'est parce que c'est un secret et que je parle de façon à n'être pas entendu, comme un sot, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à cela. Alors, viens et tais-toi, laisse-moi d'abord t'embrasser. Gloire à l'Éternel dans le ciel, gloire à l'Éternel en moi. Ils parvinrent à une véranda de vieille date. Sur une table branlante, enfoncée en terre et badigeonnée de verre, Alyosha remarqua une demi-bouteille de cognac et un petit verre. « C'est du cognac !» s'écria Mitya, riant à gorge déployée. Bon, « Tu vas dire, il continue à boire, mais ne te forge pas de telles illusions. N'accueille pas les vaines pensées, ne fous les prises de mensonges, laisse là tes soupçons. Oh, je ne bois pas, je sirote, comme dit ce cochon de Rakitine, ton ami. » « Assieds-toi. Je voudrais, Alyosha, te serrer dans mes bras, t'écraser, car véritablement, véritablement, crois-moi, je n'aime que toi au monde. » Il prononça ces mots avec exaltation. « Que toi, oui, et encore une salope dont je me suis amouraché pour ma perte. S'amouracher, c'est pas aimer. On peut s'amouracher et haïr, rappelle-toi cela. » « Bon, maintenant, parlons sérieusement. Assieds-toi à table, près de moi, que je te vois. J'ai à te parler. Toi, ne dis rien. C'est moi qui parlerai, car l'heure de parler a sonné. Mais tout bas, il faut que je te parle tout bas, car il y a peut-être ici des oreilles que je ne vois pas. Pourquoi désirais-je te voir, tout à l'heure et tous ces jours derniers ? C'est que tu m'es nécessaire. C'est que je veux tout te dire à toi seul. c'est que demain commencera pour moi une vie nouvelle. As-tu jamais eu en rêve la sensation de tomber du haut d'une montagne? Eh bien, je tombe moi réellement. Oh, n'aie pas peur, et toi non plus. Il faut pas avoir peur. C'est-à-dire, oui, j'ai peur, mais cette peur m'est douce. C'est-à-dire, pas douce, mais c'est de l'ivresse. Et puis, au diable, qu'importe, âme forte, âme faible, âme de femme, qu'importe, louons la nature. Vois quel beau soleil, quel ciel pur, quels arbres verts. Nous sommes en plein été, il est 4 heures de l'après-midi, il fait calme. Où es-tu? Mais j'allais chez mon père et je voulais entrer en passant chez Katerina Ivanovna. Chez elle et chez le père? Quelle coïncidence! Car pourquoi donc t'ai-je appelé? Pourquoi te désirais-je et de toutes les fibres de mon être? Précisément pour t'envoyer chez le père, puis chez elle afin d'en finir avec elle et avec le père. Envoyer un ange, j'aurais pu envoyer n'importe qui, mais il me fallait un ange. Et voilà que tu y allais de toi-même. Comment tu voulais m'envoyer? Dit Alyosha avec une physionomie attristée. Et pourquoi? Attends, tu sais pourquoi? Je vois que tu as tout compris. Mais tais-toi, ne me plains pas, ne pleure pas. Dimitri se leva, songeur. Elle t'a sans doute appelé elle-même, reprit-il. Elle t'a écrit, car autrement tu n'aurais pas osé. Voici sa lettre. Mitya l'a parcouru vivement. Et tu prenais par le plus court. Oh Dieu, je vous remercie de l'avoir dirigé de ce côté. Et de l'avoir fait tomber chez moi comme le petit poisson d'or dans le filet du pauvre pêcheur, comme on dit dans le conte. Écoute, Alyosha, écoute, mon frère, je vais tout te dire. Il faut enfin que je me confesse. Je me suis déjà confessé à un ange du ciel, maintenant. Je vais me confesser à un ange de la terre, car tu es un ange. Tu m'entendras et tu me pardonneras. J'ai besoin d'être absous par un être plus pur que moi. Écoute donc. Suppose que deux êtres se dégagent des choses terrestres et s'élèvent dans une atmosphère supérieure. Sinon tous deux, au moins l'un d'eux. Suppose encore que celui-ci, avant de disparaître, vienne à l'autre et lui dise « Fais pour moi ceci ou cela, enfin, des choses qu'on ne peut exiger de personne, qu'on ne demande que sur le lit de mort. Se pourrait-il que celui qui reste refusât d'obéir, si c'est un ami, un frère? J'obéirai, mais qu'est-ce? Parle vite. Vite, ne te dépêche pas tant, Alyosha, ne t'inquiète pas. C'est inutile. Alyosha, quel dommage que tu ne t'exaltes jamais. D'ailleurs, pourquoi faire? Que dis-je donc là? Homme, sois noble. De qui est ce verre? Alyosha attendait en répondre. Mitya resta longtemps silencieux, le front dans la main. Alyosha, toi seul m'écouteras sans rire. Je voudrais commencer ma confession par un hymne de joie à la Schiller. Andy Freud, mais je ne sais pas l'allemand. Ne va pas croire que je bavarde dans l'exaltation de l'ivresse. Il faut 2 bouteilles de cognac pour me griser. J'en ai pas bu un grand verre. Vrai, je ne suis pas forte avec un grand F, mais je suis fort avec un petit F. Passe-moi ce calembour. D'ailleurs, il faut me passer tout aujourd'hui. Car tout ce que je dis va, c'est que je dois le dire. Je vais droit au but. Attends, comment est-ce donc? Il leva la tête, réfléchit, puis commença avec enthousiasme. T timide, nu, sauvage, se cachait un troglodyte dans les grottes des montagnes. Nomade, il errait dans les champs et les dévastait. Il chassait avec sa lance et ses flèches. Terrible, il parcourait les forêts. Malheur à ceux que les vagues rejetaient sur ses bords escarpés. Des hauteurs olympiennes descend une mer. Cérès, qui cherche Proserpine, convient de lui ravir. Le monde gît devant elle dans toute son horreur. Pas de retraite, nul hôte. La déesse ne sait où aller. Ici, le culte des dieux est reconnu, point de temple. Les fruits, les champs, les grappes savoureuses ne décorent aucun festin. Seuls fument des restes de cadavres sur des autels ensanglantés, et partout où l'œil triste de Cérès regarde, dans son humiliation profonde, l'homme s'offre partout au regard de la déesse. Et les sanglots sortirent de la poitrine de Mithia. Il saisit la main d'Alyosha. Ami, ami, oui, dans l'humiliation. Dans l'humiliation maintenant encore. L'homme souffre beaucoup plus sur la terre, ah, beaucoup. Ne crois pas que je sois seulement l'homme de plaisir futile que tout officier se croit obligé d'être. Je ne pense presque, mon frère, qu'à cette humiliation de la condition humaine. Je ne mens pas, et l'humilié par excellence, c'est moi-même. Pour que de son humiliation, par la force de son âme, l'homme puisse se relever, il faut qu'avec l'antique mère, la terre, il fasse un éternel traité d'alliance. Mais comment ferais-je ce traité d'alliance avec la terre ? Faut-il que je me fasse bougique ou berger ? Dans mes heures de plus abjectes dégradation, j'ai toujours aimé à relire ces vers où Cérès contemple l'humiliation de notre espèce. Mais jamais ils ne purent me relever de ma propre humiliation, parce que je suis un Karamazov. N'est-ce pas toujours la tête en haut qu'on se précipite ? Et en cela même je perçois une beauté. Maudit, bas, invidite, soit, et diable incarné peut-être, pourtant, Seigneur. Je ne suis pas moins ton fils et je t'aime. Mais assez, je pleure. Laisse-moi pleurer. Vois-tu, nous sommes tous des sensuels, nous autres Karamazov. La bête sommeille en toi-même, frère, tout ange que tu sois. Terrible mystère. Dieu n'a fait que des mystères. Les contradictions se multiplient dans son œuvre. Je ne suis qu'un ignorant, pourtant je sais cela. J'y ai beaucoup pensé. La beauté, par exemple. Souvent, un homme de grand cœur et de grande intelligence a la Madone pour premier idéal, et pour dernier, Sodome. Mais le plus affreux, c'est d'avoir commencé par Sodome, en portant dans son cœur l'idéal Madone. Oui, oui, l'homme est trop large dans ses conceptions. Je voudrais le restreindre. Le diable lui-même n'y comprend rien. Il y a de la beauté jusque dans la honte. Il y a même de beauté pour la plupart que dans l'idéal de Sodome. Savais-tu cela ? C'est le duel du diable et de Dieu, et le champ de bataille. C'est toi, c'est moi. Mais au fait, et écoute maintenant. Je faisais donc la noce. Mon père disait tout à l'heure que j'ai acheté pour des milliers de roubles la virginité des filles. Mais imagination de cochon, c'est faux. Cela ne m'a rien coûté. L'argent est superflu en ces sortes d'affaires. Ce n'est qu'un décor. Aujourd'hui, la grande dame, demain la fille des rues. Et je plais à toutes deux. Et si je veux, je jette l'argent par les fenêtres. J'organise des fêtes, j'ai les tziganes, et je donne aussi de l'argent, s'il le faut, car tout de même, elles ne le détestent pas. Elles disent merci. Les petites dames me mettent à ses pattes toutes, mais un grand nombre. Ah, si tu me ressemblais, tu me comprendrais. J'aimais la débauche pour cela même qu'elle a de plus crapuleux. J'aimais la cruauté. Quel être vil suis-je donc? Une punaise, non, un Karamazov. Un jour, dans un pique-nique où presque toute la jeunesse de la ville était allée en sept troïka, par un temps sombre, l'hiver, j'obtins de ma voisine, oh, une pauvre fille de fonctionnaire, charmante, timide, certaines faveurs. Oui, elle me permit beaucoup de liberté dans l'ombre. Elle pensait, la pauvre, que je viendrais le lendemain lui demander sa main. Et 5 mois durant, je restais sans lui dire un mot. Je la voyais souvent dans un coin de salon pendant qu'on dansait, me suivre du regard. Et quel feu dans ses yeux! Ce jeu m'amusait. 5 mois après, elle épousa un fonctionnaire et partit. Furieuse contre moi, et peut-être m'aimant encore. Ils vivent heureux maintenant. Comprends bien que je n'ai rien dit de tout cela à personne. Je n'ai pas abusé de sa confiance. J'ai de vils instincts, j'aime la honte, mais je ne suis pas malhonnête. Tu rougis, tes yeux jettent des éclairs. Assez de boue comme cela, n'est-ce pas? Pourtant, ce ne sont là que fleurs et guirlandes à la pole de coq. J'ai, frère, tout un album de souvenirs. Que Dieu la garde, la pauvre. Je ne me suis jamais vanté des privilèges qu'elle m'a laissé prendre, mais assez. Ne t'ai-je pas appelé que pour remuer devant toi ces sales souvenirs? Non. Je vais te conter quelque chose de plus curieux. Laisse-moi tout te dire et ne rougis pas. Il me plaît ainsi. Ce n'est pas de tes paroles, ni même de tes actions que je rougis. Je rougis parce que je suis moi-même ce que tu es. Toi, tu exagères. Non, je n'exagère pas, dit Alyosha très animé. Nous sommes engagés dans le même escalier. J'en suis au premier degré. Tu n'es plus, toi es plus loin, quelque part sur le 13e. Mais cela se vaut, une fois le pied sur le premier degré, il faut les parcourir tous. Il ne faut donc pas mettre le pied sur le premier degré. Certes, si c'est possible. Eh bien, le pourras-tu? Je ne crois pas. Tais-toi, Alyosha, tais-toi, mon cher, et laisse-moi baiser ta main. Ah, cette gredine de Grushenska, elle connaît les hommes. Elle me disait un jour qu'elle te mangerait comme les autres. Bien, bien, je me tais. Bon, revenons à ma tragédie. Le vieux a menti quant à mes séductions prétendues. Mais en réalité, cela m'arriva une fois seulement. Encore ce n'en a-t-il pas jusqu'à l'accomplissement. N'ai jamais confié cela à personne. Tu le sens le premier. Après Ivan, toutefois. Ivan, c'est tout. Il y a longtemps de cela, mais Ivan, c'est un tombeau. Comment, Ivan, c'est un tombeau? Oui. Alyosha redoubla d'attention. Tu sais que j'étais sous-lieutenant dans un bataillon de ligne. J'y étais surveillé comme pour l'être un déporté. Mais on m'accueillait extraordinairement bien dans la petite ville. Je semais l'argent partout. On me croyait riche. D'ailleurs, je croyais l'être. Je devais aussi plaire pour d'autres motifs. On hochait la tête quand on me voyait à cause de mes fredaines, mais je t'assure qu'on m'aimait. Le lieutenant-colonel, un vieillard, me prit tout à coup en grippe. Toute la ville se vit de mon côté et il ne peut rien contre moi. C'est pourtant moi qui avais tort. Par sotte fierté, je ne voulais pas lui rendre les respects qui lui étaient dus. Le vieil entêté, bon garçon au fond, avait été marié 2 fois. Là, il était veuf. Sa première femme, d'extraction vulgaire, lui avait laissé une fille simple comme elle. 24 ans, elle vivait entre son père et sa tante. L'esprit vif, des allures dégourdies, n'ai jamais rencontré plus charmant caractère de femme. Elle s'appelait Agafia, imagine-toi. Agafia Ivanovna, ah, c'est joli, russe pur sang, grande, bien faite, de beaux yeux avec une expression assez commune. Elle ne voulait pas se marier, quoique le jeune gens eussent recherché son alliance. Elle était toujours gaie. Nous devînmes amis. Oh, j'ai eu plus d'une amitié de femme. Nous bavardions, je lui disais des choses inouïes, d'escabreux. Elle riait. Beaucoup de femmes aiment ces libertés de langage. Cela m'amusait particulièrement avec celle-ci, une jeune fille. Elle avait un joli talent de modiste dont elle se servait par complaisance pour ses amis, n'acceptant que des cadeaux. Quant au colonel, celui-là affectait de ne rien accepter en aucune circonstance. C'était une des autorités de l'endroit. Il vivait largement. Toute la ville était reçue chez lui. Il donnait des bals et des soupers. Lors de mon entrée au bataillon, il n'était bruit dans toute la ville que de l'arrivée prochaine de la seconde fille du colonel. Elle passait pour une beauté parfaite. Elle venait d'achever ses études dans une pension aristocratique de la capitale. C'est Katerina Ivanovna. Elle est fille de la seconde femme du colonel, laquelle était d'origine noble. Les plus grandes dames du lieu, deux femmes de général, une femme de colonel, toutes enfin lui firent fête. On l'invitait partout. Elle était la reine de tous les bals, de tous les soupers. Un soir, chez le commandant de la batterie, Katerina Ivanovna me toisa du regard. Je ne m'approchais pas d'elle, je dédaignais de lui être présenté. Puis, longtemps après, dans la soirée, je lui dis quelques mots. Elle me regarda à peine, avec mépris. Allons, pensais-je, je me vengerai. Je sentais bien que Kalinika n'était pas une pensionnaire innocente, qu'elle avait du caractère, de l'orgueil et une vertu solide, surtout beaucoup d'intelligence et d'instruction, tandis que je n'avais ni l'une ni l'autre. Penses-tu que je prétendais à sa main ? Non, je voulais seulement la punir, de n'avoir pas compris quel homme je suis, et je continuais ma vie de casse-tout. Mon colonel me mit aux arrêts pour 3 jours. À ce moment, je reçus du père 6 000 roubles contre une renonciation formelle à tous mes droits sur la fortune de ma mère. Bon, j'étais au courant de rien. Mais jusqu'à ces derniers temps, jusqu'à ce jour même, je n'ai rien compris à tous nos couples entre nos comptes entre mon père et moi. Mais oh, diable cela, nous y reviendrons. Donc, possesseur de ces 6 000 roubles, j'appris par la lettre d'un ami que notre colonel était en disgrâce et qu'on le soupçonnait de malversation. En effet, le général vint lui faire des remontrances. Bientôt après, on le contraignit de donner sa démission. Là-dessus, je rencontrai un jour Agafia Ivanovna, nous étions toujours amis, et je lui dis: votre père a un déficit de 4500 roubles. Comment ? Lors du récent passage du général, la caisse était au complet. Oui, lors du passage du général, mais maintenant. Oh, ne vous effrayez pas, je vous en prie. Et où avez-vous appris cela ? Rassurez-vous, dis-je, je ne le dirai à personne. En tout cas, si par hasard on demande à votre père les 4 500 roubles, et s'il ne les a pas, au lieu de le faire passer au conseil, et pour lui épargner la dégradation, envoyez-moi seulement votre sœur, j'ai de l'argent, je lui donnerai la somme et personne n'en saura rien. Oh, dit-elle, quel vaurien vous êtes ! Elle ne se trompait pas, quel méchant vaurien, mais voyez-vous, quelle audace ! Elle partit indignée, et je lui criai pendant qu'elle s'en allait que je garderai sûrement le secret. Ces deux babas, Agafia et sa tante, étaient de véritables anges. Elles adoraient Katia. Agafia conta à sa sœur, je l'appris par la suite, notre conversation. C'est précisément ce qu'il me fallait. Là-dessus arriva un nouveau major pour prendre le commandement du détachement. Le vieux colonel tombe malade, il garde le lit 48 heures durant et néglige de rendre la caisse. Le médecin assure que la maladie n'est pas feinte. Mais je savais que depuis 4 ans, le colonel avait l'habitude, aussitôt après les inspections générales, de faire disparaître une certaine somme pour quelque temps. Il la prêtait à un marchand qui la mettait en circulation et la rendait ensuite intégralement au colonel avec une bonne main. Cette fois, le marchand ne l'avait pas rendue. Aux réclamations du colonel, le coquin avait répondu « Ben, j'ai rien reçu de vous ». Le pauvre homme restait donc enfermé chez lui, la tête entourée d'un bandeau, se faisant sans cesse mettre de la glace sur le crâne. Vient une ordonnance portant l'ordre de rendre la caisse d'État dans 2 heures au plus tard. Le colonel signe sur le livre, se lève et dit qu'il va mettre son uniforme. Il court dans son cabinet, prend son fusil de chasse, le charge d'une cartouche de guerre, déchausse son pied droit, applique le canon sur sa poitrine et tâtonne du pied pour faire partir le chien. Mais Agafia, qui soupçonnait quelque chose, entre furtivement, se jette sur lui par derrière et le saisit vivement dans ses bras. Le fusil part sans atteindre personne. On accourt au bruit, on contient le malade. À cette heure-là, le soir tombait. J'étais chez moi, j'allais sortir. Quand tout à coup la porte s'ouvre et devant moi, chez moi, dans ma chambre, apparaît Katerina Ivanovna. Personne ne l'avait rencontrée. Cela pouvait rester un secret pour tous. Je compris aussitôt de quoi il s'agissait. Elle entre, me regarde droit dans les yeux. Ses regards sombres brillaient de résolution, d'insolence même. Mais la boue de ses lèvres laissait voir de l'hésitation. Ma sœur m'a dit que vous donneriez 4 500 roubles si je venais les chercher moi-même. Mais bien vous voici, donnez. Elle haletait, sa voix s'éteignit brusquement. Alyosha, écoutes-tu, on dirait que tu dors. Non, Mitya, je sais que tu me diras toute la vérité, dit avec émotion Alyosha. Tu la veux donc toute? Bon, je ne me ménagerai pas. Ma première pensée fut celle d'un Karamazov. Un jour, mon frère, une tarentule m'a mordu. J'en fus quitte pour 4 jours de fièvre. Eh bien, à ce moment-là, je me sentis mordu par la tarentule, tu comprends? Je dévisageais Katerina Ivanovna. Tu la connais, tu sais comme elle est belle. Mais à cette heure, elle était surtout belle de sa grandeur d'âme. Et moi, auprès de cette résignée, de cette dévouée, je me sentais petit. Et elle dépendait de moi tout entière, corps et âme. La morsure de la tarentule fut si cruelle que je crus mourir. Certes, je serais venu le lendemain demander la main de Katerina Ivanovna et personne n'aurait rien su. Mais j'entendis une voix me crier « Pas demain, elle te fera jeter dehors par un valet. » Je la regardais, oui, la voix disait vrai. Alors la colère me prit. Il me vint le désir d'accomplir l'action la plus vile qu'il me serait possible. La regarder, sourire ironiquement et lui dire sur un certain ton « 4 000 ? Ben, je plaisantais. Vous agissez à la légère, mademoiselle. 2 billets de 100, peut-être avec plaisir, mais 4 000 ? 4 000 roubles pour une bagatelle. Vous avez bien pris de la peine pour rien. Dans la voiture, elle se serait enfuie. Mais c'eût été diabolique, et quelle belle vengeance. Jamais je n'ai regardé une femme avec autant de haine. Oui, je te jure sur la croix que je dis vrai. Pendant 4 ou 5 secondes, je la regardais avec haine, avec cette haine qui n'est séparée de l'amour, du plus violent amour que par un cheveu. Je m'approchai de la fenêtre, j'appliquai mon front sur le carreau glacé. Il me semblait que le froid me brûlait, et je ne la retins pas longtemps. J'ouvris un tiroir, j'y pris une obligation de 5 000 roubles, et silencieusement, je la lui montrai, je la pliai, je la lui remis, j'ouvris la porte moi-même et je saluai très bas. Elle tressaillit, me regarda fixement, devint pâle comme un linge, et tout à coup, sans parler, mais avec un doux élan, me salua jusqu'à terre, pas comme un pensionnaire, à la russe, puis se releva et s'enfuit. Quand elle fut partie, je tirai mon sabre du fourreau et je voulus me le plonger dans le cœur, par sottise, en signe d'allégresse. Tu comprends qu'on puisse se tuer de joie ? Mais je me contentai de baisser la lame et je la remis dans le fourreau. Mais j'aurais bien pu ne pas te dire cela. Il me semble que je me suis un peu vanté en te décrivant tout à l'heure mes luttes intérieures, mais que le diable emporte les espions du cœur humain. « Bon, dit Alyosha, je connais maintenant la première moitié de l'affaire. Oui, un drame, hein. Il s'est passé là-bas. La seconde moitié sera une tragédie, dont le théâtre sera ici. Ben, je ne comprends pas grand-chose à cette seconde moitié. Et moi donc, j'y comprends rien du tout. » « Mais écoute, Dimitri, tu es encore fiancé. »« Mais je me suis fiancé 3 fois après ce jour-là. »« Le lendemain, je me dis que tout était fini et que cela n'aurait aucune suite. »« Allez, la demande en mariage me semblait de ma part infâme. »« Pour elle, pendant les 6 semaines qu'elle passa encore dans la ville, elle ne me donna signe de vie qu'une fois. » Le lendemain, sa bonne vint chez moi et me remit une grande enveloppe qui contenait l'excès de la somme nécessaire. Pas un mot. Je fis la noce avec le reste de mon argent, si bien que le nouveau major fut forcé de me faire une admonestation publique. Le colonel avait rendu la caisse en bon état, au grand étonnement de chacun. Il tomba malade peu après, resta 3 semaines au lit. Un beau matin, on constata qu'il avait un ramollissement du cerveau, et 5 jours plus tard, il était mort. On l'enterra avec tous les honneurs militaires. 10 jours après ses funérailles, Catherine Ivanovna, sa sœur et sa tante partirent pour Moscou. Le jour seulement de leur départ, je reçus un petit billet bleu qui portait ces quelques mots écrits au crayon. « Je vous écrirai, attendez, K. » À Moscou, les événements se précipitèrent d'une façon imprévue. Une histoire des 1001 nuits. La parente de Katerina Ivanovna, une générale, perdit tout à coup 2 nièces, ses plus proches héritières. Elle considéra Katia comme sa consolation, fit son testament en faveur de la jeune fille et lui donna en attendant une dot de 80 000 roubles. Je fus bien étonné de recevoir par la poste, à quelque temps de là, 4 500 roubles et 3 jours après, arriva la lettre promise. Oh, je l'ai encore, je ne la quitterai jamais. Je veux commentaire avec. Tiens, il faut absolument que tu la lises. Je vous aime follement. Que vous ne m'aimiez pas, cela m'est égal. Mais soyez mon mari. Ne vous effrayez pas, je ne vous gênerai en rien. Je serai un meuble chez vous, ou le tapis sur lequel vous marchez. Je vous aimerai éternellement. Je vous sauverai de vous-même. Alyosha, je suis indigne de te répéter ces paroles avec ma voix à jamais souillée. Cette lettre m'a fait une blessure inguérissable. J'ai répondu aussitôt, ne pouvant aller moi-même à Moscou. J'écrivis avec mes larmes. J'écrivis en même temps à Ivan, qui était alors à Moscou. Je lui expliquais tout dans une lettre de 6 pages et j'envoyais Ivan chez elle. Mais pourquoi me regardes-tu? Oui, Ivan s'était pris d'elle. Il l'aime, oui, je le sais. Mais fais une sottise, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cette sottise qui nous sauvera tous. Ne vois-tu pas qu'elle l'estime, qu'elle l'honore? Peut-être, si elle nous compare tous deux, ne pas le préférer. Pourquoi ne le préférerait-elle pas, surtout après les derniers événements? Mais je suis sûr que c'est un homme comme toi qu'elle doit aimer, et non pas un homme comme lui. Mais c'est sa propre vertu qu'elle aime en moi, et non pas moi-même, dit malgré lui Dimitri d'une voix irritée. Il se mit à ricaner, mais brusquement ses yeux étincelèrent. Il s'empourproie et frappa violemment sur la table. « Je te le jure, Alyosha, cria-t-il avec fureur, tu peux me croire, j'en prends Dieu à témoin. Je te jure que je me sens 1 000 000 fois indigne d'elle. Et c'est là la tragédie, je le sais bien. Quant à Ivan, oh, comme il doit maudire la nature, lui si intelligent. Oh Dieu, que lui préfère-t-on, moi qui, fiancé avec elle sous ses yeux mêmes, mène cette vie crapuleuse que tu connais. Et je suis préféré. Pourquoi? Parce qu'elle veut, par reconnaissance, me sacrifier sa vie. Absurde! Je n'ai jamais rien dit dans ce sens à Ivan. Il m'en a jamais parlé non plus, mais ce qui doit être sera. Je m'effacerai, je me plongerai dans la boue qui est mon élément. Et lui, bon, il prendra ma place. Frère, attends, interrompit Alyosha. Il y a dans tout cela quelque chose qui demeure obscur pour moi. Mais tu es son fiancé. De quel droit briseras-tu ton engagement envers elle si elle n'y consent pas? Oui, je suis fiancé. Et nos fiançailles ont été bénites. Cela se fit à Moscou dès que j'y fus arrivé. Icône, cérémonie, rien ne manqua à cette solennité. La générale nous donna sa bénédiction et même félicita Katia. Ton choix est bon, lui dit-elle, j'en suis sûr. Et croirais-tu qu'Ivan ne le puit pas? J'eus alors de longues causeries avec Katia. Je me représentais comme une nature noble et droite. Elle me croyait, trouble charmant, douce parole. Elle me força de lui promettre solennellement de me corriger. J'ai promis, tu vois. Eh bien quoi? Voilà, je t'ai appelé pour te prier d'aller chez elle, chez Katerina Ivanovna et... Quoi? Mais dis-lui que je ne la verrai plus jamais, et salue-la de ma part. Est-ce possible? Non, c'est pas possible, c'est pourquoi je te prie d'aller à ma place. Parce que je ne pourrais pas lui dire cela moi-même. Et que feras-tu donc? Je rentrerai dans ma boue, Je chez Grushenchika, n'est-ce pas? S'écria tristement Alyosha. Il aurait donc dit vrai, ce Rakitine? Moi, je pensais que ce n'était que passager et que tout finirait bien. Quoi? Ferais-je cela par jeu? J'ai encore un peu de vergogne. Dès que j'ai commencé à fréquenter Grushenka, j'ai cessé de me considérer comme un fiancé et un honnête homme. Pourquoi m'en regardes-tu? Quand je suis allé chez elle pour la première fois, c'était pour la battre. Je savais dès alors que ce capitaine lui avait remis un billet de mon père, la priant d'exiger de moi mon désintéressement à la fortune de ma mère, afin de m'obliger à me tenir plus tranquille. On voulait me faire peur. J'allais donc pour la battre. Je l'avais entrevue déjà quelques jours auparavant. Au premier regard, c'est une femme très ordinaire. Je savais l'histoire de son amant, ce marchand qui se meurt et lui laissera une grosse fortune. Je savais aussi qu'elle est cupide, qu'elle prête un gros intérêt. Je te dis que j'allais pour la battre. Je suis resté chez elle. C'est la lèpre, vois-tu. Et je me suis contaminé. Tout est fini, plus rien n'est possible. Le cycle des temps est révolu. Voilà mon histoire. J'avais 3 000 roubles en allant chez elle. Nous partîmes tous deux pour faire la fête à 25 verstes d'ici. Je fis venir des tziganes. Le champagne coula. J'en grisais tous les moujiks, toutes les babas et toutes les jeunes filles que nous rencontrâmes. 3 jours après, j'étais à sec. Et crois-tu que je n'ai rien obtenu d'elle? Pas ça! Et Dmitri fit claquer les ongles de ses pouces contre ses dents. Je te dis que cette femme est glissante comme une couleuvre. La gredine, une couleuvre serpente, dis-je. Le petit doigt de son pied gauche fait penser à un serpent. Je l'ai vu, je l'ai même baisé, mais c'est tout, je te jure. Elle me dit, « Veux-tu que je t'épouse, quoique tu sois pauvre? Promets-moi seulement de ne pas me battre et de me laisser faire tout ce que je voudrais. » Et elle rit, elle rit. Dmitri Fyodorovitch se leva en proie à un accès de rage. On eût pu le croire ivre. Ses yeux étaient injectés de sang. Et tu l'épouseras? Oh, si elle consent tout de suite. Si elle ne veut pas, je serai son valet. Toi, oh, toi, Alyosha. Il s'arrêta devant Alyosha et se mit à le secouer violemment par les épaules. Me sais-tu, innocent? Mais sais-tu que tout cela, c'est de la folie, une horrible folie, une tragédie? Apprends, Alexeï, que je suis vil, que j'ai de viles passions. Mais être un voleur, un pickpocket, oh, non, Dmitri Karamazov ne le peut. Eh bien, je le suis pourtant, ce voleur. Quand j'allais pour battre Karushenska, le matin du même jour, Katerina Ivanovna m'avait appelé et mystérieusement prié, je ne sais pourquoi, d'aller dans le chef-lieu et d'envoyer de là 3 000 roubles à Agafia Ivanovna à Moscou. Eh bien, c'est avec ces 3 000 roubles que j'ai offert le champagne à Grushenchka. Puis j'ai prétendu être allé au chef-lieu, avoir envoyé l'argent, mais j'avais oublié le récépissé. Qu'en penses-tu? Aujourd'hui, tu iras lui dire, il me prie de vous saluer. Elle te demandera. Et l'argent? Alors tu répondras, oh, c'est un sensuel, un viveur sans cœur. Il a dépensé votre argent, il n'a pu résister à la tentation. Et pourtant, si tu avais pu ajouter, C'est pas un voleur. Voici vos 3 000 roubles. Envoyez-les vous-même à Agafia Ivanovna et recevez les hommages de Dimitri Fiodorovitch. Mais maintenant, où est l'argent? Mitya, tu es malheureux, mais moins que tu ne penses. Ne te tue pas de désespoir. Oh, crois-tu que je vais me tuer pour cela? Non, non pas. J'ai pas la force maintenant. Plus tard, peut-être. Maintenant, je vais chez Grushenka. Et puis, je l'épouserai, si elle daigne m'agréer. Et quand ses amants viendront, ben j'irai dans la chambre à côté. Je cirerai même leurs bottes, je ferai chauffer son samovar. Elle m'emploiera pour ses courses. Mais Katerina Ivanovna comprendra tout, dit solennellement Alyosha. Elle comprendra tout et pardonnera. Elle a l'esprit élevé. Elle comprendra qu'on ne peut être plus malheureux que toi. Non, non, elle ne pardonnera pas. Il y a ici une chose qu'aucune femme ne peut pardonner. Sais-tu ce qu'il vaut mieux faire?
Et quoi?
Mais lui rendre les 3 000 roubles. Mais où les prendre? Écoute, j'en ai 2 000, Ivan t'en donnera 1 000, cela fait la somme. Oui, mais quand les aurai-je? Tu es encore mineur, il faut qu'aujourd'hui même tu en finisses pour moi avec elle, que tu aies ou non l'argent. Demain, bon, ce serait déjà trop tard. Allez, va chez le père.
Chez notre père?
Oui, d'abord chez lui, demande-lui la somme. Mais il ne la donnera pas. Évidemment. Sais-tu ce que c'est que le désespoir, Alexei?
Oh oui.
Écoute, juridiquement, il ne me doit rien. Mais moralement, il me doit beaucoup. C'est avec les 20 000 roubles de ma mère qu'il a fait sa fortune, qu'il a amassé ses 200 000 roubles. Qui m'en donne seulement 3 000, il me sauvera de l'enfer et beaucoup de péchés lui seront pardonnés. Il n'entendra plus parler de moi. Je lui fournis une dernière occasion d'être un père. Dis-lui que c'est Dieu même qui la lui offre.
Mitya, mais il ne les donnera pas pour rien au monde.
Je le sais bien. Maintenant surtout. Je sais qu'on lui a dit sérieusement hier pour la première fois. Remarque bien, sérieusement, que Rushenka parle peut-être sérieusement de m'épouser. Eh bien, ira-t-il me donner de l'argent pour faire les frais de mes noces, quand il est lui-même fou d'elle? Plus encore, je sais que depuis 5 jours déjà, il a mis de côté 3 000 roubles en billets de 500 dans un seul paquet scellé de 5 sceaux et noué d'une ficelle rouge. Je suis informé. Et sur le paquet est écrit « À mon ange Grushenka, si elle consente à venir chez moi. » Il a écrit lui-même cela, furtivement. Et personne ne sait qu'il a cet argent, personne, sauf son valet Smerdiakov, en l'honnêteté de qui il croit comme en lui-même. Et voilà 4 jours qu'il attend Grushenka, espérant qu'elle viendra chercher son paquet, car elle lui a écrit « Peut-être viendrai-je. » Si elle va chez lui, puis-je l'épouser? Comprends-tu pourquoi je me cache ici et qui j'épie?
Elle?
Oui, elle. Je suis ici grâce à la complaisance du soldat qui garde cette maison. Le maître ignore que je suis ici. Et le soldat ne sait pas pourquoi j'y suis. Et Smerdiakov seul le sait. Oui, c'est lui qui me fera savoir si elle va chez le vieux.
C'est lui qui t'a conté l'histoire du paquet?
Oui, c'est un grand secret. Ivan lui-même n'en sait rien. Le vieux l'a envoyé se promener dans une ville voisine pour 2 ou 3 jours,
sous prétexte d'affaires, espérant que Grushenka viendra pendant ce temps. Alors il l'attend par conséquent aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui elle ne viendra pas. Je vois cela à certains indices particuliers. Sûrement, elle ne viendra pas. C'est aussi l'avis de Smerdyakov. Le père est en train de boire. Il est à table avec Ivan. Va donc, Alexei, demande-lui ses 3 000. Mitya, mon cher, mais qu'as-tu donc ? S'écria Alyosha, se levant pour regarder de plus près Dmitri, croyant un instant qu'il ne fût devenu fou. Quoi, tu me crois fou ? Dit d'un air solennel Dmitri Fyodorovitch. Je sais ce que je dis, je crois au miracle. Au miracle ? Oui, au miracle de la Providence. Dieu, c'est mon cœur, Dieu, c'est mon désespoir. Laissera-t-il s'accomplir un si terrible malheur ? Alyosha, je crois au miracle, allez, va ! J'irai. Dis-moi, tu m'attendras ici ? Oui, ce sera long, il est saoul à 7 heures. J'attendrai ici 3, 4, 5, 6 heures. Mais il faut que ce soit fait aujourd'hui, fût-ce à minuit. Il faut que tu ailles aujourd'hui chez Katerina Ivanovna, avec ou sans argent. Et tu lui diras, Dmitri Fyodorovitch m'a dit de vous saluer. C'est cette phrase textuellement que tu dois dire. Mais Mitya, si Grushenka vient aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, Grushenka, oh, je vais les épier, je courrai et j'empêcherai. Mais si, bon, et si alors je tuerai. Mais qui tueras-tu? Le vieux? Frère, que dis-tu? Ben, je sais pas, je sais pas. Peut-être tuerai-je pas. Je crains son visage maudit en ce moment. Je hais son double menton, son nez, ses yeux, son sourire effronté, voilà. C'est cette haine qui m'effraie. Oh, je ne pourrais pas me retenir. J'irai, Mitya. Je crois que Dieu fera que ces choses horribles n'arrivent pas. Et moi, ben, j'attendrai ici le miracle. Mais s'il ne s'accomplit pas, alors... Alyosha, songeur, s'en alla chez son père.